France Inter, le 18-20.
Il est forestier, il s'appelle Peter Wolleben. Il a écrit l'année dernière « La vie secrète des arbres », ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent. Un énorme succès de librairie, 650 000 exemplaires vendus, 32 traductions. Alors ce soir au téléphone sonne, on va se poser plusieurs questions. Que savons-nous des arbres? Nous voudrions qu'à la fin de l'émission, vous ne regardiez plus la forêt comme avant. Les arbres ont un comportement social, ils communiquent entre eux, oui, il y a un langage des arbres. Les arbres, d'une certaine façon, ils nous ressemblent, ils ont la notion du temps. On va parler de leur durée de vie, des conséquences de la déforestation, des bienfaits des arbres. On parlera des arbres des villes et des arbres des forêts à la campagne qui ont des situations complètement différentes, des modes de vie différents. Et pour vous répondre, pour recevoir toutes vos questions, deux invités. Alain Baraton, dois-je le présenter, Alain Baraton, jardinier en chef du domaine national de Trianon et du grand parc du château de Versailles, responsable du domaine national de Marly-le-Roi. Bonsoir Alain.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous et très heureux de commencer cette année avec vous et avec les arbres.
Et je vous souhaite une excellente année, Alain Baraton. Je rappelle qu'Alain, on le retrouve sur France Inter le week-end dans le 6-9 de Patricia Martin et Éric Delvaux, samedi et dimanche. Autre invité avec nous au téléphone, Éric Goulouzel, qui est directeur territorial de l'Office national des forêts, l'ONF, pour l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Tous mes voeux, monsieur Goulouzel, et merci d'être avec nous. Bonsoir.
Belle année à vous, Pierre Veil, merci, et belle année aussi aux auditeurs, et puis Alain Baraton.
Et on va retrouver dans quelques secondes le standard et les auditeurs.
Le 18-20, Pierre Veil, le téléphone sonne.
Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurai plus de joie, j'ai jeté ma pipe.
Alain Baraton, cette chanson, c'est elle qui vous a donné la vocation d'être jardinier?
C'est l'une des chansons qui m'a donné raison d'avoir choisi ce métier, parce qu'effectivement, que serions-nous sans les arbres? Les arbres, ce ne sont pas que des morceaux de bois, ce sont des souvenirs, c'est le temps passé, le temps à venir, et puis c'est la vie, c'est la nature.
Au standard, tout de suite, Francis est avec nous. Bonsoir Francis.
Bonsoir à tous.
Merci d'écouter France Inter et le téléphone sonne. Nos invités vous écoutent.
Bonsoir à tout le monde et bonne année à tout le monde. Monsieur Baraton a raison de dire que les arbres sont des êtres vivants à part entière. J'écoute souvent Monsieur Baraton le samedi matin quand j'ai le temps.
Et vous avez raison.
Merci. Donc, pour parler de la forêt, car plusieurs arbres ensemble, ça fait une forêt, un bosquet ou un bois, qui dépend de ce qu'on a fait dans l'avenir. Je vais parler de la forêt du Bagé d'Oloron Sainte-Marie, qui est condamnée. Il y a un projet d'une grande carrière, une des plus grandes d'Europe. En fait, ma question se porte sur quel est l'état de santé des forêts en France, comment c'est géré, vu qu'on sillonne partout avec des routes, des voies rapides, des LGV. Donc voilà, je voulais savoir comment on se projette dans l'avenir par rapport à nos forêts. Merci.
Alain ?
Déjà, les forêts sont gérées majoritairement par l'Office national des forêts, et nous avons donc un ami qui est mieux compétent, je crois, pour en parler. Mais il est vrai qu'il y a aujourd'hui un problème. La forêt se porterait mieux, mais j'emploie le conditionnel. Le danger aujourd'hui n'est pas vraiment la forêt, mais l'arbre en isolé, l'arbre historique, qui lui, par contre, ne bénéficie d'aucun statut. Mais il est vrai que la forêt nationale, la grande forêt, finalement, est dans une santé relativement bonne. Encore faut-il lui donner les moyens, de continuer à l'être pour les siècles à venir, parce que le problème d'un arbre, c'est qu'il a une espérance de vie tellement inouïe, 9000 ans pour les arbres les plus vieux vivants sur la planète, qu'il faut être capable de prendre des mesures pour le long terme.
Éric Goulouzel, je rappelle, directeur territorial de l'Office national des forêts pour l'Île-de-France, la Normandie et les Hauts-de-France. Est-ce que vous êtes constamment mobilisé dans une sorte d'opération défense des arbres face à la progression de l'urbanisme, des constructions, des routes ?
Oui, c'est un vrai sujet, mais Alain Baraton a raison. La forêt publique va bien et elle va mieux qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années, même centaines d'années. En 200 ans, la surface de la forêt française a doublé et plus qu'en surface, en volume aussi. Le volume de bois produit à l'hectare a été multiplié par 4. Cela signifie que aujourd'hui, les arbres ont une plus grande durée de vie en forêt, sont exploités plus tardivement qu'il y a 100 ou 200 ans.
La déforestation, ça existe en France ?
La déforestation, c'est renoncer définitivement à l'état boisé. L'état boisé est un acte de protection, souvent dans les documents d'urbanisme, et il peut arriver, évidemment, que pour des raisons de création d'infrastructures, on puisse déboiser, y compris des forêts publiques. Cela arrive, hein, c'est exceptionnel, c'est minoritaire, mais pour le passage d'un tramway, le passage d'une autoroute, il peut arriver, quand il n'y a pas d'autre solution que d'éviter la forêt, de déboiser, mais c'est compensé par des surfaces qu'on reboise à d'autres endroits du territoire.
Le drame véritable, c'est l'arbre en isolé, l'arbre le long des routes, où effectivement, ces arbres sont coupés de manière parfois excessive, parfois même scandaleuse. J'ai le souvenir de deux tilleuls vieux de 450 ans qui avaient été coupés dans une petite commune des Vosges pour permettre le temps d'un week-end, l'installation d'un stand d'auto-tamponneuse. Vous voyez, on est dans la démence la plus complète, d'où mon cri systématique, et ce depuis de longues années, de donner à l'arbre historique un statut, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Jean-Yves, bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir.
Merci de nous appeler.
De Bretagne.
Oui, très bien. Vous vouliez témoigner ou poser une question? Dites-nous.
Alors, une question un peu un petit peu pas provocatrice, mais si les arbres sauvaient la planète? Voilà. On s'explique. Les arbres, notamment, moi je suis responsable d'une association qui s'appelle l'Arbre Indispensable, et on travaille sur la forêt linéaire, beaucoup, qui est justement dévastée par l'agriculture intensive en Bretagne, il n'y a plus que des vieux arbres, et nos paysages ressemblent à nos sociétés un peu, on n'a plus que des vieux arbres, même M. Baraton défend les vieux arbres, mais en faisant cette opération d'arbres remarquables, on s'est aperçu qu'on s'intéressait aux vieux, mais pas aux jeunes. Et notre association, ça s'intéresse aux jeunes arbres, donc on a sorti une charte de l'arbre indispensable pour que nos paysages justement redeviennent ce qu'ils ont été faits au départ, c'est-à-dire c'était pour l'économie, c'est-à-dire et là, tous nos bords de route, nos bords de champs, nos bords de rivière doivent revenir avec le réchauffement climatique, et ce sont ces endroits-là qui seront plus de chance de survie, parce que nos forêts sont en général plantés sur des sols pauvres, comme en Bretagne, et ils seront faciles aux incendies, et nos arbres champêtres, ils ont davantage de lumière, des sols plus profonds, et pour peu qu'on rétablisse la fonction hydraulique, on arrivera à faire quelque chose. Alors je vous invite à regarder, on a sorti une charte de l'arbre indispensable, c'est des inventaires, diagnostics, on détermine des objectifs et un plan de gestion. Donc il y a quatre objectifs, culture et patrimoine, ressources et savoir-faire, alimentaire et frontières pour les hommes, les animaux, les insectes, protéger l'eau, l'air, les sols et la biodiversité, pour engager un plan de gestion. On travaille déjà avec le milieu agricole, petitement, mais on travaille sur des formations. Et quand on a optimisé nos quatre piliers, on est au maximum sur le réchauffement climatique. Voilà, donc stockage de carbone. Et donc nos arbres, ils produisent des tonnes d'oxygène, des tonnes de matière organique. Un arbre, il restitue 97% de l'eau qu'il a pompée, épurée en vapeur d'eau. Vous vous rendez compte?
Voilà, Jean-Yves, donc, j'arrête. Vous connaissez parfaitement le sujet et on a bien compris ce que vous vouliez nous expliquer, c'est-à-dire que les arbres sont indispensables pour la survie de notre planète.
Vous venez même de résumer parfaitement la situation, à savoir que pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut bien évidemment planter des arbres. C'est l'une des méthodes mises en place, entre autres, par les New-Yorkais qui se sont engagés à planter dans les années qui viennent des millions d'arbres. L'occasion, et vous l'avez très justement souligné, de rappeler que l'évapotranspiration est cette eau qui est propulsée dans l'atmosphère et qui permet qu'il y a des forêts là où il y a des arbres. Pour faire simple, ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il y a des forêts, c'est parce qu'il y a des arbres qu'il pleut et qu'il y a ensuite des forêts. Donc là, effectivement, c'est la vie, vous l'avez dit parfaitement bien.
Patrice, bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Vous trouvez
à vous, à toute l'équipe et aux invités.
Vous nous appelez de quel endroit?
Alors j'appelle d'un département très boisé, la Meuse.
Oui.
Ouais, il fait bon se promener à la forêt. Je voudrais aborder le problème de la gestion des forêts, l'exploitation de l'arbre en général, à partir de quelques exemples concrets. Par exemple, pour leur croissance, les arbres ont besoin de nutriments issus de la décomposition de l'humus. Et il y a une pratique qui semble s'intensifier, je pense au ramassage du bois mort pour la confection de plaquettes de chauffage. Alors je me demande si c'est bien raisonnable. Est-ce que c'est pas finalement une catastrophe annoncée pour certaines parcelles? Je pense aussi au problème de Gardanne, où il y a une usine qui utilise le bois avec un non-sens absolu, où après avoir commencé à piller les forêts du sud de la France, on fait venir des milliers de tonnes de bois depuis l'Amérique, ce qui est vraiment une débilité sur le plan environnemental. Et enfin, je pense aussi à un écosystème très particulier dont on parle peu finalement, c'est celui de la haie. Dans certaines régions, on a réagi au remembrement catastrophique en replantant des haies, mais dans certains départements, par exemple dans ma Meuse profonde, enfin quand je veux dire profonde, c'est bien bien profonde, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Eh bien, on continue allègrement à saccager cet écosystème. Alors je trouve que c'est un peu lamentable.
Bien, sur ce témoignage, Éric Goulouzel, un commentaire.
Oui, alors je peux parler de la forêt publique. En forêt publique, en forêt domaniale notamment, évidemment qu'on prélève des arbres, on prélève essentiellement des troncs, et les pieds peuvent servir au chauffage, à l'énergie, à créer des plaquettes, comme le disait Patrice, mais surtout l'ONF s'attache à laisser régulièrement dans les parcelles les pieds à se décomposer et à créer le fameux humus dont parlait Patrice et qui permet de régénérer la forêt.
Des courriels avec cette question qui revient très très souvent. Les arbres ont-ils la notion du temps? Et là, on pense à la chute et à la repousse des feuilles. Alain Baraton.
Oui, bien évidemment, ils sont déjà capables d'anticiper le temps qu'il va faire. Lorsqu'un arbre perd ses feuilles à l'automne, c'est qu'il a constaté que la lumière diminuait, ce qui rend difficile la photosynthèse. Mieux, il anticipe la période de l'année où l'eau dans le sol sera gelée et il ne pourra donc pas l'absorber, donc se nourrir. Donc l'arbre est capable déjà d'identifier les saisons. Si un arbre fleurit au printemps et fructifie à l'automne, ce n'est pas par hasard. La petite graine qui va tomber dans le fruit en automne va être recouverte par les feuilles qui vont la protéger du froid et elle pourra germer ainsi avec les premiers retours du soleil. Donc oui, effectivement, les plantes ont la notion du temps, ils ont la notion de l'espace, ils ont des notions inouïes. Il y a un terme que j'aime beaucoup, par exemple, au niveau des arbres, c'est ce qu'on appelle la timidité botanique. Il a été observé que les arbres avaient besoin d'espace pour se développer. Certains ne vont jamais toucher leur congénère. Comment l'arbre peut-il savoir qu'il y a un autre arbre à côté de lui? A-t-il des yeux? Je ne pense pas. Donc les arbres, oui, ont la notion du temps, de la distance. Ils ont la notion de la vie, je crois.
Sur le site de l'émission, alors beaucoup de questions pour vous. Pouvez-vous nous raconter ce que vous savez de la vie des arbres en société, de leurs relations, de leur communication? C'est un sujet qui est bien évoqué dans ce livre, hein, La vie secrète des arbres de Peter Wolben. Sur ce thème, Éric Goulouzel, les arbres, ils se parlent, ils communiquent, vraiment?
Oui, bien sûr. Ce sont des découvertes assez récentes. C'est même assez étonnant qu'on puisse découvrir cela après être allé sur la Lune. Mais ça en dit long encore de la méconnaissance de l'homme sur les sujets, certains sujets de nature. Mais oui, les arbres communiquent entre eux grâce aux racines essentiellement et aux champignons qui relient les racines entre elles au sein d'une même espèce. Et au sein d'une même espèce, il peut y avoir des communications donc chimiques par le transport de substances de racine à racine.
Alors bon, vous parliez des champignons, Alain Baraton, il y a une question qui revient très souvent. Expliquez-nous le lien entre les champignons et les arbres. Le champignon est-il un ennemi de l'arbre?
C'est très compliqué, parce que pour faire très simple, le champignon que l'on voit sur l'écorce du végétal, pour faire donc caricaturé, ce serait la fructification du réseau de mycélium qui se trouve à l'intérieur du bois. Et ce réseau de mycélium se produit sur les matières en décomposition. Ce qui veut dire que l'arbre faiblissant, le champignon en profite pour envahir son bois. Le champignon accélère la décomposition du bois et ensuite va se reproduire par le biais de ce champignon. Tout ça est un mal nécessaire. On a parlé tout à l'heure de la récupération des arbres pour permettre aux nouveaux arbres d'avoir de quoi se nourrir. Donc les arbres se décomposent grâce aux champignons, grâce aux insectes xylophages. Ce sont des accélérateurs de décomposition et cela permet ainsi aux jeunes végétaux de trouver de quoi se nourrir.
Ariane, bonsoir Ariane.
Oui, bonsoir, merci de ce thème qui lance bien l'année. J'ai une question au sujet des arbres remarquables, des arbres très anciens. Lorsque nous sommes en vacances ou autour de soi, je trouve très difficile de savoir les trouver, savoir où ils se trouvent dans les forêts. Est-ce que vous avez un conseil?
Ah oui,
à la Baraton. Ah, alors les arbres remarquables.
Et un conseil imparable, vous allez sur internet et vous tapez arbre au pluriel en majuscule et chaque lettre étant distante d'un point. C'est le nom d'une association créée par Georges Fetterman qui a pris pour objet de recenser, de protéger et de communiquer autour des arbres remarquables. Cette association, à loi 1901, a pour objet un jour de faire protéger les arbres, mais elle a tout répertorié, connaît tous les arbres remarquables, de, des domaines privés ou publics. C'est vraiment, allez-y, il y a quantité d'ouvrages également qui ont été publiés, mais des gens qui se passionnent pour ces vieux arbres, qui ont tant et tant à nous raconter, existent bien. Donc association Arbre, vous tapez Arbre remarquable et vous aurez réponse à toutes vos questions.
Qu'est-ce qui menace le plus la santé des arbres? Sont-ils menacés par des virus, des bactéries comme nous? Question posée par Michel sur Internet. Éric Goulouzel, directeur territorial de l'Office national des forêts pour l'Île-de-France.
Oui, on constate aujourd'hui une évolution assez inédite de propagation de ces maladies. On est soumis aujourd'hui à une propagation notamment d'un champignon qui pousse le frêne, qui s'appelle dont la maladie s'appelle la calarose. Et qui tue, comme on a connu la maladie des ormes qui les ont exterminés ou quasiment tous exterminés, eh bien on est en train d'assister aujourd'hui à la mort de tous les frênes, alors principalement du nord et de l'est de la France, mais on voit cette maladie progresser très très vite et dans une rapidité peut-être assez inédite, jamais constatée jusqu'à présent. D'autres maladies, l'encre du châtaignier est en train de toucher notamment les forêts de l'ouest de l'Île-de-France. C'est assez inquiétant.
C'est très préoccupant. Alors, il y a les méthodes culturelles qui sont en cause. Lorsque l'on parle de certaines régions enneigées, l'emploi abusif de sel provoque le dessèchement des conifères. Mais effectivement, vous venez très bien de rappeler les problèmes sur le châtaignier, les problèmes de l'orme, donc, et de la graphiose. On aurait pu rappeler également que le peuplier, lui aussi, est sujet à quantité de petits problèmes depuis quelques temps. On pourrait parler du marronnier qui a retrouvé la mineuse, un petit insecte qui est issu de son lieu natal, donc, la Grèce et l'Albanie. Alors, je ne sais pas s'il y a davantage de problèmes de santé qu'auparavant, on en parle davantage, mais je suis par contre très très heureux d'entendre les auditeurs aujourd'hui s'émouvoir pour les arbres. Il y a 30 ou 40 ans, de tels propos auraient été, j'allais dire, inouïs. On n'aurait pas pensé un instant s'intéresser aux arbres. Il y avait un homme par contre qui s'y intéressait beaucoup, on le dit trop peu, il s'appelait Georges Pompidou. Et Georges Pompidou, alors qu'il était président de la République, avait écrit une lettre magnifique pour rappeler à son premier ministre de l'époque, Chaban-Delmas, qu'il fallait cesser de couper les arbres le long des routes, parce que les arbres le long des routes faisaient partie de notre patrimoine. Donc vous voyez, excepté l'homme d'État que fut Georges Pompidou, très peu d'auditeurs se préoccupaient autrefois du devenir des arbres.
Jean-Paul pose cette question, quel est le statut juridique de l'arbre isolé, sa protection?
Je l'affirme, l'arbre en France n'est pas protégé. Oui. C'est dramatique, il y a bien des règlements qui vont permettre de les conserver dans un certain endroit. Les forêts, l'Office national des forêts, elles, bien entendu, dans leur intégralité, sont protégées, mais l'arbre en tant que tel ne l'est pas. À Versailles, un lieu que je connais particulièrement bien, les arbres ne sont pas protégés. Ce sont les alignements, ce sont les bosquets qui sont classés monuments historiques. Ce n'est pas le végétal en tant que sujet individuel. Alors, classer un végétal, c'est toujours très compliqué, bien évidemment, car c'est un être vivant, donc mortel. Mais on pourrait peut-être, parfois, penser à l'olivier de Roquebrune-Cap-Martin, qui va fêter cette année ses 2000 ans. On pourrait penser au chêne d'Allouville, en Normandie. On pourrait penser à ce vieux chêne qui vit sur la commune de Pessine, en Charente-Maritime, et qui doit allègrement aller vers ses 1800 ans. Je crois qu'il serait bien, effectivement, de prévoir un statut juridique pour protéger les arbres anciens les plus remarquables, et puis peut-être les arbres devenus indispensables à notre vie. Je sais, Pierre, sans rien dévoiler, que vous appréciez beaucoup les jardins du Luxembourg. Il faudrait peut-être protéger ces arbres avec un petit peu plus, non pas de sérieux, ils le sont déjà, mais un peu plus de loi.
Mathilde, bonsoir Mathilde, oui. Merci d'être avec
bonsoir.
Nous.
Bonsoir. Oui, bonsoir, bonne année. Moi j'avais juste une question de savoir si les services des eaux et forêts pouvaient dispenser des conseils gratuitement auprès des particuliers ou des petites exploitations quant au choix des arbres qui seraient à couper, par exemple, pour éclaircir une forêt également par rapport au fait que les arbres tiennent la montagne, hein, tiennent la terre et que parfois c'est fait de façon un peu n'importe comment, quoi. Voilà.
Éric Goulouzel.
L'ONF a une mission de conseil importante, de conseil notamment par sa connaissance qui est là de la forêt et du végétal, et cela se fait j'allais dire gratuitement, auprès surtout des écoles, des élèves, des enfants que l'ONF accompagne dans leur sensibilisation à l'environnement, et ça c'est du temps de forestier gratuit auprès des écoles. En revanche, pour des particuliers, pour des entreprises, ces services-là sont payants, ces services de conseil, de diagnostic d'arbres sont payants.
France Inter, le 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Des questions à propos de ce livre qui est paru, La vie secrète des arbres, qui a connu un énorme succès, plus de 600 000 exemplaires vendus. C'est paru aux éditions Les Arènes de Pieter Wolleben. Et dans ce livre, il est question des bienfaits des arbres et de la forêt sur notre santé. Les promenades en forêt sont-elles bonnes pour la santé, nous demande-t-on. L'immersion forestière pour combattre des maladies, est-ce que c'est une légende ou une réalité scientifiquement démontrée? Un bain de forêt et on ira mieux. Est-ce crédible, Alain Baraton ?
Je pense que oui. Des études sérieuses ont prouvé que la présence d'un jardin au cœur d'un hôpital psychiatrique arrangeait, facilitait la guérison des patients. Je pense qu'effectivement, sans arbres, on n'a pas du tout la même notion de vie. Avoir des arbres face à soi rend heureux, forcément. L'arbre, c'est la vie. L'arbre est un lieu qui permet à des insectes, à des oiseaux, à des petits mammifères de se nicher. L'arbre, vous parliez tout à l'heure, Pierre Veil, avec beaucoup de justesse du temps. C'est l'arbre qui vous indique à vous que nous sommes au printemps, en automne ou en hiver. C'est l'arbre qui va dégager des senteurs merveilleuses dans les rues, qui ont besoin parfois d'une atmosphère un petit peu agréable. C'est l'arbre qui va donc nous indiquer où nous sommes et qui nous sommes.
Éric Goulouzel, les arbres, c'est bon pour la santé? Sérieusement, oui, ça peut aider à combattre des maladies?
Alors, je ne saurais pas répondre scientifiquement à cette question, mais je pense que l'homme n'a pas oublié qu'il est né dans la forêt et le cerveau reptilien certainement s'en souvient, même si on s'en est beaucoup éloigné, même si on est devenu certainement très urbain, on voit assez rapidement que les hommes ont besoin de forêt et s'y sentent tout de suite mieux.
Alors, et puis comment ne pas penser aux arbres qui nous prodiguent des soins directement par leur substance? Je pense bien sûr au salix dont on a extrait la salicine, l'aspirine. Comment ne pas penser également à la quinine qui a permis de lutter efficacement contre le paludisme, une maladie qui fait des dégâts inouïs à travers la planète? Comment oublier l'IF qui aujourd'hui entre dans la composition de certains médicaments anticancéreux car il produit, il possède des propriétés antitumorales? Donc l'arbre effectivement nous permet d'être en bonne santé de par sa présence, mais également de par sa composition.
Marie au standard. Bonsoir Marie.
Oui, bonsoir. Je suis en Lozère là actuellement et je viens de Lyon et depuis quelques années, tous les conifères, en particulier les sapins et les forêts de sapins, sont envahis par les chenilles processionnaires. Et ça dure depuis quelques années et ça ne fait que croître et embellir et les arbres crèvent les uns derrière les autres. Je voulais savoir ce que l'ONF faisait, parce que c'est pas que la Lozère, je suppose, qui est contaminée, c'est toutes les forêts de résineux. Et je voudrais savoir si l'ONF avait des solutions. Je sais que là, c'est dramatique parce qu'il n'y a pas un arbre qui n'est pas infecté par ces nids de chenilles processionnaires. Voilà.
Éric Goulouzel vous répond.
Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de chimie en forêt publique. Voilà, ça, c'est un premier point, parce que sinon, on aurait la solution immédiate avec quelques insecticides bien choisis. Mais on se l'interdit, évidemment. Donc, ces phénomènes sont souvent cycliques et on n'a rien de mieux à faire que d'observer ces cycles de la nature qui progressent, qui régressent et évidemment qui peuvent détruire des arbres mais qui, heureusement, ont le temps de se régénérer et on espère que les générations suivantes, eux, ne seront pas autant touchées par ces chenilles. Voilà. On assiste, vous savez, les forestiers assistent beaucoup au spectacle de la nature. Ils la maîtrisent, ils l'orientent, mais ils sont assez humbles devant la force de la nature, la force positive, les forces négatives, et on est assez souvent spectateur de cette nature.
Beaucoup de réactions sur le site de l'émission, des courriels. Je vous les lis. Jacqueline, par exemple, elle nous écrit ceci. Voilà, je voulais lancer un cri d'alarme, dit Jacqueline. En effet, j'habite en banlieue parisienne à Asnières, dans un quartier pavillonnaire très agréable et recherché car il y a des arbres dans les jardins. Or, depuis quelques années, les nouveaux arrivants qui achètent les maisons ont comme première action en emménageant de couper les arbres. Trop de feuilles à ramasser, trop d'ombre, sans doute. Je suis catastrophé de voir cela et les quartiers vont finir par ne plus ressembler à rien. Ils font pousser les nouveaux propriétaires des oliviers à la place des tilleuls et des marronniers. Quel dommage. En Baraton.
Ah, c'est un constat malheureusement. Alors vous avez des gens qui sont obligés d'abattre des arbres parce qu'ils ont des projets personnels et que l'arbre malheureusement ne s'y inscrit pas, donc on ne peut pas forcément condamner. Mais vous venez de citer l'exemple de l'olivier. L'occasion peut-être de dénoncer un trafic odieux qui consiste en Espagne à arracher de leurs terres nourricières des arbres vieux de 2000 ans, et j'ai bien dit 2000 ans, pour être vendus en Bretagne, en Lorraine ou en Alsace à des gens fortunés qui se plaisent ainsi à montrer des arbres aussi anciens. Je crois que l'arbre n'a pas encore acquis son titre de noblesse auprès de certains, qu'il faut vraiment tout faire pour les protéger, se rappeler que les arbres sont des êtres vivants et que ce n'est pas parce qu'un olivier est capable de survivre à une transplantation pendant 15 ou 20 ans qu'il pourra vivre éternellement. C'est malheureusement anticipé leur décès. Mais effectivement, aujourd'hui, l'arbre est souvent devenu une nuisance, une contrariété pour les feuilles, pour les racines, pour le tronc, pour les obstacles, pour l'ombre. On le voit, on le coupe dans les jardins de banlieue, on le coupe également le long sur les trottoirs, d'où une question qu'on est légitimement aujourd'hui en droit de se poser. Le long des routes en ville, l'arbre a-t-il encore sa place ?
Jean, bonsoir Jean.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne et nos invités vous écoutent.
Eh bien écoutez, je vous appelle de l'Aveyron et je voudrais savoir si les arbres se vaccinent entre eux. Mon propos est le suivant, j'ai deux énormes chênes dans une propriété et tout autour, une couronne d'orme en pleine santé alors que la graphiose a tout dévasté dans les environs, il n'y a plus un orme dans notre région.
Alors, je vais quitter 30 secondes, si Pierre me le permet, le domaine de l'arbre pour parler du fraisier. Vous allez voir où je veux en venir. Il a été prouvé que le fraisier qui se reproduit par stolon, en fait, ce sont des petites plantes qu'on voit, il y a une tige aérienne qui va donner naissance à un nouveau pied. Lorsqu'une limace vient s'attaquer au petit, eh bien, le fraisier mâle, le fraisier qui a donné naissance à cette future descendance, va transformer la composition de ses feuilles pour attirer les chenilles à lui, se sacrifier ainsi pour permettre aux petits de se développer et de survivre. Et donc je pense que les plantes sont effectivement capables, peut-être pas de se vacciner, mais capables de se soigner. Le conifère, par exemple, est capable d'envoyer dans les galeries creusées par les insectes xylophages, de la résine pour empêcher l'animal de nuire. C'est ainsi qu'on va trouver, bien des millions d'années plus tard, des insectes prisonniers dans l'ambre. Donc oui, les arbres sont parfois capables de se soigner et de s'aider.
Éric Goulouzel, vous vouliez dire un mot à propos de ce témoignage de Jean ?
Je ne saurais pas répondre à la question de la symbiose entre les chênes et les ormes, mais on sait que certains ormes ont résisté durablement à la graphiose parce que certains ont présenté des mutations génétiques qui les ont rendus résistants. C'est ce qui va se passer d'ailleurs pour les frênes dont je parlais, hein, qui vont certainement presque tous mourir, mais certains vont résister parce qu'ils ont des caractéristiques génétiques particulières, et c'est à partir de ces frênes résistants que certainement on pourra repeupler encore les forêts avec des variétés résistantes. Et d'ailleurs, il existe un orme dit résista, hein, qui a été trouvé par élaboré par l'INRA et qui est aujourd'hui replanté et qui permet de repeupler les villes et les parcs d'ormes qu'on a tous appréciés.
Beaucoup de réactions et de courriels sur le site de l'émission, la forêt, les arbres, ça fascine. Une question qui va vous sembler peut-être un peu basique, mais voilà, je vous la lis. Comment l'eau contenue dans le sol, arrive jusque dans les feuilles ?
Alors c'est un mécanisme qui a finalement été expliqué assez tardivement. On se demandait comment effectivement un arbre était capable de propulser à 30 voire 40 mètres de hauteur de l'eau. Alors pour faire très simple, on va rappeler que l'eau est absorbée par les racines et va monter jusqu'au niveau des feuilles à travers les faisceaux du bois pour produire pour ce qu'on appelle de la sève brute. Et au contact au niveau des feuilles du soleil et du gaz carbonique, il y a ce qu'on appelle la photosynthèse. Et cette sève dite brute se transforme en une sève élaborée assimilable par les tissus du végétal. Et ainsi, la sève redescend et nourrit la plante dans son ensemble. Cette eau est capable capable de monter car il y a trois mécanismes qui rentrent en action. Le phénomène d'osmose, donc le milieu le plus riche qui attire le milieu le plus pauvre, la capillarité, mais aussi et surtout, il a été constaté que les feuilles possèdent des pores qui leur permettent de respirer. Et ces pores, qui sont des petites ouvertures, fonctionnent un peu, je caricature bien évidemment, un peu comme des clapets qui sont autant de pompes pour attirer l'eau jusqu'à elles. Donc voilà comment les plantes ont été capables. Et lorsqu'en automne d'ailleurs, elles décident de se supprimer de leurs feuilles, les feuilles ne pouvant plus assurer ce système de petites pompes, eh bien la plante se met en repos végétatif.
Jérôme, bonsoir Jérôme. Vous êtes au standard
oui,
du téléphone sonne et maintenant c'est à vous en direct.
Oui, bien, bonsoir. Moi, je suis apiculteur professionnel depuis 40 ans. Donc, j'ai 65 ans, là. Mais je continue d'avoir des ruches un peu partout, beaucoup en forêt, dans l'Aude. Et c'était une remarque sur le, comment on intervient dans la forestation. Des fois, enfin, il y a eu des erreurs de fait dans l'Aude. Enfin, moi, je l'ai constaté. Je pense pour raison économique, on a planté beaucoup de pins, des pins qui poussaient vite. Alors, on a parlé du pin noir d'Autriche ou d'autres variétés, je ne sais plus quoi, et qui ont envahi des zones. En plus, maintenant, ils se ressèment, ils se replantent et ils se sèment eux-mêmes, quoi, ils se développent.
Oui.
Et il n'y a rien d'autre qui pousse de...
Donc vous voulez dire
ça, ça acidifie. Alors je crois que maintenant on en tient de plus en plus compte, mais c'était pour savoir ce qu'il en était. C'est notamment donc pour la personne de l'ONF, pour savoir si si vraiment au niveau après des instances locales et des raisons économiques aussi, parce que c'est souvent des communes qui ont planté des pins. Mais c'est quand même des terrains communaux gérés par l'ONF.
On va vous répondre, Jérôme. Éric Goulouzel, il y a donc des arbres que l'on installe et qui peuvent provoquer des dégâts.
Oui, alors il faut peut-être qu'il y ait une idée reçue, hein, c'est que la forêt publique, aujourd'hui, domaniale, communale, elle se régénère majoritairement naturellement, c'est-à-dire qu'on intervient très peu en plantation. Planter pour un forestier aujourd'hui, c'est un échec de la régénération naturelle. 80% aujourd'hui des forêts publiques se régénèrent naturellement, c'est-à-dire que on laisse se ressemer des glands, du chêne notamment, avant de couper les vieux chênes. Et c'est ça qui crée le cycle de régénération naturelle. Donc il y a vraiment très très peu de plantations, et notamment très très peu d'enraisinement dans le cas de situations où les feuillus viendraient naturellement.
Bon, Alain Baraton.
Je n'ai pas toujours été tendre dans le passé avec l'Office national des forêts, mais je dois reconnaître que Éric Goulouzel dit vrai quand il parle de l'ONF qui observe la nature. Suite aux tempêtes de 1999, et aujourd'hui nous avons encore une tempête, l'occasion d'en reparler, l'Office national des forêts a constaté après des études extrêmement poussées et sérieuses qu'un arbre issu d'un semis naturel résistait davantage adulte au vent que lorsque l'arbre était planté. À Marly, par exemple, nous travaillons en étroite collaboration avec l'ONF, nous sommes avides de leurs conseils. Donc effectivement, l'ONF aujourd'hui a pris compte de toutes ces considérations environnementales et il y a eu des gigantesques transformations dans leur manière de faire. Autant la gestion de l'ONF, je le dis en toute indépendance, était très contestable il y a 30 ou 40 ans, autant elle a tendance à devenir, et c'est tant mieux, peut-être pas encore tout à fait exemplaire, mais vraiment très positive.
Pierre nous a écrit « J'ai la chance de posséder un superbe érable, vénérable, multiséculaire. Comment déterminer son âge? Qui peut m'y aider? Merci d'avance. Oh. » En labaraton.
Je doute que l'érable soit multiséculaire,
oui.
Parce que l'érable est un arbre qui vieillit pas si bien que ça. Et les érables, mais Éric Goulouzel peut peut-être dire le contraire, des érables plusieurs fois centenaires, personnellement je n'en connais pas.
Sur ce point, Éric Goulouzel.
Non, je n'en connais pas non plus. Bien, malheureusement, il faudrait le couper pour connaître son âge, c'est-à-dire connaître l'âge, c'est compter le nombre de cernes année après année qui se constituent, et le nombre de cernes donne l'âge de l'arbre, mais évidemment je ne conseillerais pas de tuer l'arbre pour connaître son âge.
Et beaucoup de questions, alors je les résume, hein, d'auditeurs qui sont fascinés par cette longévité des arbres, comment expliquer 300 ans, 500 ans,
9000 ans 9000 ouais. Il a été découvert alors, dans le nord d'un bosquet de la Norvège, un bosquet de sapins, de bon vieux sapin de Noël, ils sont quelques-uns, ils sont nanifiés, et les scientifiques ont constaté qu'ils étaient âgés, je crois, de 8500 à 9000 ans. Comment ont-ils fait pour surmonter autant de temps? on ne le sait pas vraiment, mais les arbres ont une espérance de vie inouïe. Mais le drame des arbres, c'est que souvent ils sont coupés avant de mourir naturellement. Comment savoir qu'un séquoia peut vivre 3, 4 ou 5 000 ans quand il est coupé au bout de 1500 ou 2000 ans? Comment savoir qu'un chêne en France est capable de vivre 2000 ans quand dès qu'il a une petite branche morte, eh bien la tentation de l'abattre devient une évidence?
On est fasciné par les arbres, par la forêt, parce que les arbres nous précèdent et nous survivent. Alain Baraton, je fais un peu de philosophie là.
Mais il nous accompagne également. Je parlais tout à l'heure du jardin du Luxembourg. Lorsqu'on est habitué à ce jardin, que l'on vient tous les jours s'y asseoir, que l'on pense à Victor Hugo qui lui aussi aimait venir réfléchir dans ce jardin, on voit les arbres qui sont à côté de vous et puis le temps passe et vous vieillissez. Et quand 30 ans plus tard vous revenez sur le même banc et que vous découvrez que cet arbre, il a deux fois grandi, il a pris une dimension importante, vous avez conscience qu'il a vieilli. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui que de planter un arbre pour honorer la victoire, la naissance d'un enfant, ou même sceller l'amour entre deux êtres? Donc l'arbre, effectivement, nous accompagne. C'est plus que la vie, c'est le symbole de la vie.
Éric Goulouzel, les arbres nous précèdent et puis ils nous survivent. Ça nous fait tourner
oui,
la tête.
C'est une conscience qu'a parfaitement le forestier. Le forestier est vraiment un des rares contemporains aujourd'hui à maîtriser ce temps long. C'est une belle histoire que de penser aujourd'hui qu'un forestier qui plante un arbre, il ne le récoltera pas. Et ce sont les générations suivantes qui vont le récolter. Le forestier, il a 200 ans de perspective, de temps long et de temps d'accompagnement de la nature. Et ça, c'est assez rare aujourd'hui pour le souligner.
Au standard, un autre appel, j'avais vu sur mon petit tableau, sur mon ordinateur, Sylvie qui était en ligne, elle est toujours avec nous ou nous l'avons perdue? Dites-moi, Sylvie est-elle là? Non, elle n'est plus là. Alors on va prendre des questions courriel et on en a parlé au début de l'émission, beaucoup de questions sur les arbres à la campagne et les arbres en ville. Est-ce qu'on peut dire que les arbres en ville, c'est la question qui est revenue très souvent sur le site, les arbres en ville ont une vie plus difficile que ceux qui sont à la campagne, à la Baraton?
Alors, quand vous regardez un arbre, vous voyez un tronc et vous voyez des branches. Imaginez que sous terre, il y a la même quantité de racines. On a du mal à se l'imaginer. Donc, en ville, l'arbre souffre principalement d'un tassement au niveau des racines, d'une terre qui n'est pas de bonne qualité. En partie aérienne, il souffre de tailles souvent drastiques, de chocs. Donc, l'arbre de la campagne a toutes les raisons d'être heureux, même si parfois il est malmené. L'arbre de ville, c'est un cauchemar. Aujourd'hui, quand je vois à Paris, les arbres qui vont vivre le long du boulevard Saint-Germain, on se demande même comment, avec aussi peu de terre à leur base, comment, avec des grilles pour les protéger eh bien, du choc des voitures, ils arrivent à vivre néanmoins. Donc effectivement, il n'y a pas photo, l'arbre de ville a beaucoup plus de mal à vivre que l'arbre de la campagne.
Ce courriel, on le reçoit à l'instant. Les Indiens avaient déjà compris que les arbres communiquaient véritablement entre eux. N'avons-nous pas beaucoup de retard face à des civilisations ancestrales?
Les Indiens qui s'excusaient avant de couper un arbre, quand ils avaient besoin de l'abattre. Et je vous rappelle que dans nos campagnes normandes, il n'y a pas si longtemps, on n'hésitait pas à taper avec un manche sur le tronc d'un fruitier pour lui faire croire qu'on allait l'abattre, et donc ainsi l'encourager à fructifier. Donc on avait déjà conscience que l'arbre était peut-être capable de comprendre.
Le dernier appel ce soir, c'est Christian. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Soyez pas trop long parce qu'il nous reste 2 minutes.
D'accord. Alors, curieusement, est-ce qu'il existe une science consistant à étudier le langage entre les arbres de la même façon qu'on étudie le langage animal? Est-ce qu'à terme, d'ici, je sais pas, 20 ans ou 30 ans, on espère de pouvoir communiquer avec les arbres? Alors, pas verbalement, pas oralement, mais je sais pas, par des logiciels, peut-être des processus chimiques ou autres.
Ça, moi, je peux pas vous répondre.
Ça, c'est pas facile comme question.
Je peux pas vous répondre. Je sais simplement que tous les jours, je vois des personnes venir autour des vieux arbres, les prendre dans leurs bras et ils semblent communiquer avec. Donc, il y a déjà des gens qui communiquent avec. Les arbres sont-ils sensibles aux appels qu'on leur lance? Ça, je suis bien incapable de vous répondre.
Éric Goulouzel?
Oui, bien incapable aussi. Mais ça, c'est un sujet passionnant. Mais je suis, comme Alain, assez incapable de répondre à cette question.
Dernier courriel, on a abattu beaucoup de platanes et on continue pour raison de maladie ou bien pour faire de la place. Mais est-ce qu'on en plante des platanes, Alain Baraton?
Oui, il faudra en planter. Il faut surtout maintenant, quand on abat des arbres, se rappeler que les arbres sont des êtres vivants, qu'ils peuvent être porteurs de maladies. Et si on avait désinfecté les scies lorsqu'on est intervenu sur les platanes du canal du Midi, il n'y aurait plus cette contamination générale et beaucoup de platanes auraient ainsi été préservées.
Éric Goulouzel, juste un chiffre, la forêt en France, elle augmente chaque année de combien d'hectares?
On a des chiffres?
Je crois que c'est 80 à 90 000 hectares par an, ouais, ce qui est extrêmement important. Hein. Alors c'est lié à la déprise agricole, c'est lié à des plantations nouvelles, c'est lié à des actes de compensation dont je parlais tout à l'heure. La forêt augmente, c'est un fait et c'est pas souvent connu.
Merci à nos invités, merci Alain Baraton, on vous retrouvera le week-end prochain dans le 6-9 vers 7h45, si je me souviens bien, le 6-9 de Patricia Martin et Éric Delvaux.
Éric Delvaux, oui.
Le samedi et le dimanche. Merci Éric Goulouzel d'avoir répondu aux questions des auditeurs de France Inter. Après les informations de 8h, Laure Adler, l'heure bleue. Mais là, il est tout juste, enfin presque, 20h15, quoi. Oui.